La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Avec les commémorations du 75e anniversaire du débarquement allié en Normandie, s'achève la première phase de la visite d'État de Donald Trump en Angleterre.
Une première phase londonienne et royale qui a donc vu le président américain se frotter au protocole très tatillon de Buckingham Palace. Alors forcément, les médias américains comme britanniques se délectaient par avance de voir comment l'intenable Donald Trump allait se prendre les pieds dans l'épais tapis des convenances royales. Mais finalement, à l'heure des premiers bilans, The New Yorker, sous la plume d'Anthony Lane, constate plutôt que Trump s'est avantageusement fondu dans la pompe et l'apparat londonien. Certes, on retiendra qu'il n'a pas eu droit à la traversée de la capitale dans le carrosse doré, ni à la nuitée à Buckingham Palace, mais tout de même, écrit Anthony Lane, les Britanniques ont appris une chose aux Américains, à en juger par son inhabituelle retenue depuis lundi, le fait qu'il ait presque paru modeste et ouvert, oui, face à la reine et aux siens. Il semblerait donc bien qu'il soit possible d'amadouer l'indomptable président, de le désarmer poliment au moyen de sourires convenus, de conversations anodines et d'un fastueux banquet. Beaucoup moins encourageante, carrément acerbe même, Kathleen Parker pour The Washington Post étrille la prestation londonienne de Trump sous ce titre sans appel. Décidément, l'argent ne peut pas acheter la classe. Et le président vient de le prouver face à la famille royale. Les Elisabeth II, Charles et consorts, nous dit la journaliste, ont eu beau tout faire pour rester stoïques, quitte à ressembler au célèbre statue de cire de Madame Tussauds, rien n'y a fait. Trump n'a pas réussi à contenir bien longtemps son naturel de pecno new-yorkais, tout fortuné soit-il.
Heureusement, il y a la presse britannique pour nous parler des enjeux politique de cette visite, Camille.
Oui, et à voir les unes des journaux ce matin, ça tient en trois lettres. NHS comme National Health Service, la santé publique britannique au cœur de toutes les préoccupations. Le risque est réel, nous dit The Eye, que les Américains veuillent faire main basse sur ce fleuron du welfare à l'anglaise, cette santé publique qui pourrait donc être ouverte à l'avenir aux capitaux américains dans le cadre du futur accord commercial post-Brexit entre Royaume-Uni et États-Unis. Trump, avant de partir pour Londres, avait évoqué cette possibilité comme une belle opportunité pour les fonds de pension américains. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas réussi à rassurer ses hôtes britanniques sur le sujet lors d'une conférence de presse hier avec Theresa May. Voilà ce qu'il a d'abord déclaré.
Look, I think everything with the trade deal is on the table. So NHS or anything else, or a lot more than that, but everything will be on the table, absolutely.
Je pense que quand on négocie un accord commercial, tout doit être mis sur la table des négociations, dit Trump. Le NHS doit être mis sur la table et tout le reste, bien plus que ça même. Voilà, imaginez la levée de bouclier que cette perspective a suscité outre-Manche avec, par exemple, le tabloïd de Daily Mirror qui titre ce matin « Bas les pattes, Trump n'imagine même pas que tu vas faire de l'argent avec notre système de santé bien aimé ». Les autres unes sont du même tonneau et l'on verra si l'interview télé du président américain qui a été diffusée ce matin sur TV a de quoi calmer un peu les esprits car il semble déjà le président américain avoir changé de discours.
I don't see it being on the table. Somebody asked me a question today and I say everything's up for negotiation because everything is, but I don't see that being, that's something that I would not consider part of trade. That's not trade.
Et voici donc Donald Trump qui affirme qu'il n'imagine pas que le NHS soit compris dans le cadre des négociations de libre-échange. Il explique que tout ça, tout ce qui relève du commerce doit être sur la table, mais que la santé publique, ça ne relève pas du commerce. Voilà comment on se contredit en l'espace de quelques heures. Heureusement, on peut toujours compter sur le tact et l'indulgence britannique du Guardian. Le quotidien note poliment ce matin que le président américain semble hésiter sur le sujet, qu'il a finalement revu sa position après avoir vu quelle levée de bouclier il avait suscité.
Et puis la revue de presse internationale nous emmène aussi ce matin en République tchèque.
Oui, et plus précisément sur la place Venceslas de Prague, qui n'avait pas vu autant de manifestants depuis des années, presque même depuis la révolution de velours en 1989, nous dit le Pražský deník. 120 000 tchèques manifestaient donc hier au cœur de la capitale à l'appel du mouvement anti-corruption Million pour exiger la démission du Premier ministre Andrej Babiš et de sa ministre de la Justice Maria Benešová. Les Tchèchké Novini ont beau nous rappeler que des manifestations de ce genre, il s'en tient une par semaine depuis un mois et demi à Prague ou ailleurs dans le pays. Tout de même, l'ampleur exceptionnelle du rassemblement d'hier attire l'attention à l'étranger, en particulier du Financial Times. Et c'est lui qui nous explique que Babiš, deuxième fortune tchèque devenue Premier ministre, est accusé d'avoir détourné via ses entreprises des millions d'euros d'aides européennes auxquelles il n'aurait pas dû avoir droit. C'est l'affaire dite du Nid Cigogne, du nom de cette ferme ultramoderne établie établi au sud de Prague et grassement subventionné par la PAC, dont Babiche s'est bien gardé de dire qu'il était le propriétaire. Depuis qu'il est devenu chef du gouvernement, l'homme d'affaires a bien fait mine de se séparer de sa holding agricole, mais récemment, un audit commandité par Bruxelles a estimé que cette séparation n'était pas suffisante pour éviter les risques de conflits d'intérêts. Le Financial Times nous rappelle aussi que la justice tchèque a recommandé en avril qu'Andrej Babiche soit jugé pour corruption, mais la procédure semble bloquée par la ministre de la Justice. En fait, ce qui pousse les foules dans la rue, qu'on se croit comprendre Martin Fendrich sur le site Aktualnie Tchèchke, c'est l'exaspération face à un chef politique et chef d'entreprise qui sait qu'il est un conflit d'intérêts à lui tout seul, qui s'en vante depuis des années et qui ne voit pas où est le mal du moment qu'il n'en abuse pas, comme il l'expliquait en mars 2016. Martin Fendrich pose la question de l'exemple que cela donne à la population dans ce pays membre de l'Union européenne quand son leader lui dit en substance « Allez-y, faites comme moi, piétinez les règles ». Andrej Babiche, lui, se dit victime d'une cabale politique, d'une attaque de Bruxelles contre son pays à travers lui. Et il s'accroche à son poste avec la bénédiction du président tchèque Miloš Zeman. Les deux hommes se sont longtemps fréquentés sous la bannière communiste. Dernier appel enfin du Financial Times. Il y a 10 jours, le parti du Premier ministre, étiqueté populiste de centre-droit, nommé Action des citoyens mécontents, est arrivé en tête des élections européennes. Alors décidément, non, à l'inverse des 120 000 manifestants d'hier et des sans doute plus encore des prochains jours, Andrej Babiche ne voit vraiment pas où est le mal.